peut attaquer désormais sereinement le module 2. Donc on a vu comment créer un compte de stockage dans Azure, comment subdiviser ce compte de stockage avec des containers ou alors y accéder via des Azure Files. Maintenant, on va parler un petit peu de la gestion des accès. C'est concrètement comment on fait pour, entre guillemets, sécuriser ou contrôler un petit peu l'accès qu'on a à ces contenus qui sont hébergés sur Azure depuis l'extérieur. Donc, trois types de permissions sur les containers. Donc les containers, je le rappelle, c'est un petit peu les répertoires qui sont au sein d'un compte de stockage. Donc là, par défaut, c'est un accès qui est en mode privé, c'est-à-dire qu'on a zéro accès anonyme sur la ressource de base quand on crée un container. Si on a fait clic-clic et qu'on a, ça va poser de questions. On peut, si on paramètre le container en mode blob, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder au blob à l'intérieur avec des requêtes anonymes, donc sans aucune authentification nécessaire. Et si on se met en mode container, dans ce cas-là, on pourra lister et accéder au blob via en fait des requêtes anonymes.
C'est-à-dire qu'on pourrait également lister le contenu d'un container.
Exactement, en tant que moi.
Donc accéder à la liste des blobs inclus dans le container.
Voilà, et cette valeur-là se trouve effectivement, ce choix va se trouver dans ce petit menu déroulant ici, qui est le mode accès.
Qui se trouve au même endroit que l'édition des métadatas du container d'ailleurs.
Exactement.
On en a déjà parlé.
Oui. Donc, à retenir, en fonction des questions que vous pouvez avoir, effectivement, c'est on vous proposera différents choix en fonction d'un scénario en disant voilà, on veut pouvoir mettre à disposition de tout le monde sans authentification des blobs. Donc attention sur la formulation de la question, parce que la formulation va des fois vous dire accéder aux fichiers qui sont stockés dans un container ou accéder à l'ensemble d'un container, y compris ses propriétés. Donc c'est là-dessus en fait que le choix de la réponse entre blob et container le plus souvent.
C'est là où il y a les questions pièges. Les clés, la gestion des clés d'accès, on voit là dans le portail qu'on a effectivement la notion de clé d'accès primaire et de clé d'accès secondaire. Pourquoi il y en a deux? Pour gérer cette étape où on va renouveler les clés. Et donc ça c'est une question qui est aussi dans l'examen, c'est je voudrais renouveler mes clés d'accès à mon stockage parce qu'une clé a été compromise, a été accédée par un moyen qui a été compromis. Comment est-ce que je fais cette opération de maintenance? Je régénère la clé secondaire, j'utilise la clé secondaire pour accéder au stockage et ensuite je régénère la clé primaire et comme ça j'ai régénéré mes clés.
Ok. Donc effectivement, souvent la question elle est formulée pour le faire le plus rapidement possible avec le moins d'étapes possible. Donc, effectivement, une clé primaire et une clé secondaire, elles permettent la même chose, c'est juste que le fait d'en avoir deux permet par exemple de donner temporairement à une personne une clé et après de régénérer la clé une fois que la personne a ses services sur ses fichiers. Ça, c'est une deuxième type de question qu'on peut avoir. Mais la question permettant de dire par exemple quelles sont les étapes les plus courtes pour régénérer l'ensemble des clés, effectivement, je régénère ma clé secondaire, je l'affecte au stockage et je régénère ma clé primaire. Là, en fait, j'ai fait les opérations. Si j'ai bien reparamétré l'ensemble de mes applications comme ça, en trois étapes, quelque part, j'ai fait mes opérations. Donc l'ordre a vraiment de l'importance. Vous voyez, je régénère d'abord ma secondaire, je l'affecte en utilisation. Je régénère la primaire, je la laisse. Ma primaire devient ma secondaire, entre guillemets. Et puis en gros, j'ai fait les opérations. Ah, c'est bien fait d'ailleurs, parce qu'on l'avait écrit en fait dans les slides. Donc on régénère la secondaire, on utilise la clé secondaire pour accéder au stockage, et on régénère la clé primaire.
Ça, c'est l'ancien portail, et si on regarde dans le nouveau portail, voilà à peu près à quoi ça ressemble.
Donc là, on va voir par exemple que sous un compte de stockage, on a différents storage accounts, plusieurs instances, et puis on a cette petite grosse, cette petite case, là où il y a écrit clé, quoi. On va voir effectivement pour le compte de stockage donné, la clé d'accès principale et secondaire, ici on est, et les chaînes de connexion, là encore en HTTPS.
Et donc les deux boutons dessus pour régénérer les clés d'accès. Et comme la traduction française est un petit peu longue, c'est la clé primaire à gauche et la clé secondaire à droite.
Enfin, Donc on va dire dans l'ancien portail, c'était juste deux boutons. Là, ils ont. C'est les problèmes de la traduction française. De toute façon, il n'y aura pas de questions en français, vu que l'examen est en anglais. Donc, De par la fête. Il y a assez peu d'interfaces qui sont montrées dans l'examen, je pense qu'on peut le dire. Il y en a quelques-unes sur les containers, etc.
Mais
il y en a peu. Il y en a.
Autre domaine d'intérêt qui sera de toute façon présent dans l'examen, ça il n'y a pas de questions à se poser dessus, c'est le Shared Access Signature. Et ça, c'est pour répondre à un besoin de devoir accéder à un accès partiel à des ressources qui soient authentifiées dans un compte de stockage. Donc c'est pour donner par exemple accès à un fichier particulier, à quelqu'un en particulier, lui donner un accès qui soit authentifié via le web.
Et on est vraiment sur une ressource particulière et pas forcément sur un blob complet ou un container complet.
Exactement. On s'en sert par exemple pour partager un VHD avec quelqu'un, on est en train de créer une VM et puis on veut valider le VHD, dire à la personne, voilà, je te transmets tel VHD, tel environnement, ben, on crée un shared access signature qui va donner l'accès au VHD pour que la personne puisse le télécharger, puisse le récupérer chez elle ou l'exécuter dans un autre compte de stockage qu'elle a dans son environnement. Comment est-ce qu'on crée cette shared access signature ? Ben, c'est avec du PowerShell, donc c'est new-Azure Storage Blob SAS Token.
Là encore, on vous encourage à faire une petite recherche dans votre moteur de recherche préféré pour voir ou utiliser le help de PowerShell pour avoir quelques exemples de structure de la commande. Là encore, pour être bien à l'aise le jour où, si par hasard vous avez la commande avec des blancs, ben vous sachiez à quoi ça répond.
Donc là, ça ressemble à une URL classique d'accès aux ressources, sauf qu'à la fin, elle est largement élargie.
Voilà.
Pour rajouter les infos d'accès au blob.
Le fameux token d'accès en fait, qui est rajouté à la fin de l'URL. D'accord.
Donc le Store Access Policy permet la création de tokens à partir de stratégies d'accès, donc un petit peu de manière plus standardisée. Voilà. On fait ça avec des outils tiers. Cerebrata Azure Management Studio, qui est la version payante de leur utilitaire qui permet de gérer Azure.
Surveillance diagnostique, là encore on est sur de la commande PowerShell, donc deux commandes sont intéressantes à retenir pour l'examen.
Donc oui, il y a cette Azure Storage Service Logging Property.
C'est long, hein, ça fait quand même des belles commandes. Alors l'autocomplete marche bien dans PowerShell.
Bien content dans ce cas-là.
L'autocomplete marche bien dans PowerShell, par contre dans l'examen il marche moins bien. Mais les commandes vont se reconnaître avec Logging Property et Metrics Property. Qui servent à créer des propriétés de journalisation des services de stockage.
Et le métrique, c'est pour les mesures qu'on veut pour déclencher des alertes par rapport à du stockage, tout simplement, à l'utilisation du stockage.
Exactement.
Important.
Donc les journaux sont stockés directement dans les comptes de stockage, dans le compte de stockage en question, dans un container qui est créé par le système et qui s'appelle $logs.
Combien de dollars, on se doute quelque part que c'est un container qui est un peu caché.
Voilà. Mais qui sera accessible via les outils qui vont bien, comme PowerShell et Visual Studio et d'autres.
Et ben voilà pour ce petit tour d'horizon de l'accès au container, la sécurisation de l'accès au container et puis un petit peu de login de cet accès au container et aux informations. Module d'après.
Alors, c'est pas trop pour les IT, mais ça fait partie de l'examen dans la partie infrastructure, c'est que dans le stockage, ils ont intégré et à réviser donc la partie SQL database.
Et bien donc, dans quelques instants, on en discute plus en détail.